Tribunaux rustiques, Guy de Maupassant. La salle de la justice de paix de Gorgeville est pleine de paysans qui attendent, immobiles le long des murs, l'ouverture de la séance. Il y en a des grands et des petits, des gros rouges et des maigres qui ont l'air taillés dans une souche de pommier. Ils ont posé par terre leur panier et ils restent tranquilles, silencieux, préoccupés par leur affaire. Ils ont apporté avec eux des odeurs d'étable et de sueur, de lait aigre et de fumier. Des mouches bourdonnent sous le plafond blanc. On entend, par la porte ouverte, chanter les coqs. Sur une sorte d'estrade s'étend une longue table couverte d'un tapis vert. Un vieux homme ridé écrit, assis à l'extrémité gauche. Un gendarme, raide sur sa chaise, regarde en l'air à l'extrémité droite. Et sur la muraille nue, un grand Christ de bois, tordu dans une pose douloureuse, semble offrir encore sa souffrance éternelle pour la cause de ces brutes aux senteurs de bêtes. Monsieur le juge de paix entre enfin. Il est ventru, coloré, et il secoue, dans son pas rapide de gros homme pressé, sa grande robe noire de magistrat. Il s'assied, pose sa toque sur la table et regarde l'assistance avec un air de profond mépris. C'est un lettré de province et un bel esprit d'arrondissement. Un de ceux qui traduisent Horace, goûtent les petits vers de Voltaire et savent par cœur Verver, ainsi que les poésies grivoises de Parny. Il prononce « Allons, monsieur Potel, appelez les affaires. » Puis, souriant, il murmure « Quid quid tentabam dicere versus erat. » Le greffier, alors, levant son front chauve, bredouille d'une voix inintelligible
« Madame Victoire bascule contre Isidore Paturon. »
Une énorme femme s'avance. Une dame de campagne, une dame de chef-lieu de canton, avec un chapeau à ruban, une chaîne de montre en feston sur le ventre, des bagues aux doigts et des boucles d'oreilles luisantes comme des chandelles allumées. Le juge de paix la salue d'un coup d'œil de connaissance, où perce une raillerie, et dit
« Madame bascule, articulez vos griefs. »
La partie adverse se tient de l'autre côté. Elle est représentée par trois personnes. Au milieu, un jeune paysan de 25 ans, joufflu comme une pomme et rouge comme un coquelicot. À sa droite, sa femme, toute jeune, maigre, petite, pareille à une poule cayenne, avec une tête mince et plate que coiffe, comme une crête, un bonnet rose. Elle a un œil rond, étonné et colère, qui regarde de côté comme celui des volailles. À la gauche du garçon se tient son père, vieux homme courbé, dont le corps tordu disparaît dans sa blouse empesée, comme sous une cloche. Madame Bascule s'explique.
« Monsieur le juge de paix, voici 15 ans que j'ai recueilli ce garçon. Je l'ai élevé et aimé comme une mère. J'ai tout fait pour lui. J'en ai fait un homme. Il m'avait promis, il m'avait juré de ne pas me quitter. » Il m'en a même fait un acte, moyennant lequel je lui ai donné un petit bien. Ma terre de Bec de Martin, oh, qui vaut dans les 6 000. Or, voilà qu'une petite chose, une petite rien du tout, une petite marveuse.
Le juge de paix. Modérez-vous, Madame Bascule.
Madame Bascule.
Une petite... Je m'entends. Lui a tourné la tête. Lui a fait... Je ne sais quoi, non, je ne sais quoi. Et il s'en va l'épouser, ce sot, ce grand bête. Et lui porte mon bien en mariage, mon bien du Bec de Mortain. Oh mais non, j'ai un papier, le voilà. Qu'il me rende mon bien, alors. Nous avons fait un acte de notaire pour le bien et un acte de papier privé pour l'amitié, l'un pour l'autre. Chacun son droit, est-ce pas vrai?
Elle tend au juge de paix un papier timbré grand ouvert. Isidore Paturon.
C'est pas vrai!
Le juge de paix.
Taisez-vous, vous parlerez à votre tour.
Il lit.
Je, sous-signé Isidore Paturon, promets par la présente à Madame Bascule, ma bienfaitrice, de ne jamais la quitter de mon vivant et de la servir avec dévouement. Gorgeville, le 5 août 1883,
le juge de paix.
Il y a une croix comme signature. Vous ne savez donc pas écrire ?
Isidore.
Non, je sais point.
Le juge.
C'est vous qui l'avez faite, cette croix.
Isidore.
Non, c'est point aimé.
Le juge.
Qu'est-ce qu'il a fait, alors ?
Isidore.
C'est elle.
Le juge.
Vous êtes prêt à jurer que vous n'avez pas fait cette croix ?
Isidore, avec précipitation.
Sur la tête de mon père, et de ma mère, et de mon grand-père, et de ma grand-mère, et du bon Dieu qui m'entend. Je jure que c'est point aimé.
Il lève la main et crache de côté pour appuyer son serment. Le juge de paix, riant.
Quels ont donc été vos rapports avec Madame Bascule, ici présente ?
Isidore.
On m'a servi de traîner.
Rire dans l'auditoire.
Le juge. Modérez vos expressions. Vous voulez dire que vos relations n'ont pas été aussi pures qu'elle le prétend ?
Le père Paturon, prenant la parole.
Il n'avait point 15 ans. Point 15 ans, monsieur le juge. Quand même la débouchée.
Le juge.
Vous voulez dire débauchée ?
Le père.
Je sais-tu, mais il n'avait point 15 ans. Il y en avait déjà bien 4. Quand elle levait en brochette, quand elle nourrissait comme un poulet gras, à le faire crever de nourriture, sauf votre respect. Et puis, quand le temps fut venu qu'il lui semblait prêt, quand l'a détravé.
Le juge.
Dépravé. Et vous avez laissé faire.
Le père.
Ouf, celle-là ou bien une autre. Fallait bien que ça arrive.
Le juge.
Alors, de quoi vous plaignez-vous ?
Le père.
De rien. Oh, me plaît de rien, mais de rien. Seulement, qu'il n'en veut plus, lui. Qu'il est bien libre. J'y demande protection à la loi.
Madame Bascule.
Ces gens m'accablent de mensonges, monsieur le juge. J'en ai fait un homme.
Le juge.
Parbleu.
Madame Bascule.
Il me renie. Il m'abandonne. Il me vole mon bien.
Isidore.
C'est pas vrai, monsieur le juge. J'ai voulu la quitter, v'là 5 ans. Vu qu'elle avait grossi d'excès, que ça m'allait point. Ça me déplaisait, quoi. Je lui dis donc que je vais partir.
Alors, va qu'à pleure comme une gouttière, comme promet son bien du bec de Mortain, pour rester quelques années, rien que 4 ou 5. Mais je dis, oui, pardi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Je suis donc resté 5 ans, jour pour jour, heure pour heure. J'étais quitte, chacun son dû. Ça valait bien ça.
La femme d'Isidore, muette jusque-là, crie avec une voix perçante de perruche.
Mais guettez-la, monsieur le juge, c'est un meule, et dites-moi que ça valait bien ça.
Le père hoche la tête d'un air convaincu et répète.
Pardi, oui, ça valait bien ça.
Madame bascule, sa fesse sur le banc derrière elle, et se met à pleurer. Le juge de paix, paternel.
Que voulez-vous, chère dame ? Je n'y peux rien. Vous lui avez donné votre terre du bec de Mortain, par acte parfaitement régulier. C'est à lui, bien à lui. Il avait le droit incontestable de faire ce qu'il a fait et de la porter en dot à sa femme.
Je n'ai pas à entrer dans les questions de délicatesse. Je ne peux envisager les faits qu'au point de vue de la loi. Je n'y peux rien.
Le père Paturon, d'une voix fière.
Je pourrais dire retourner chez nous.
Le juge.
Parfaitement.
Ils s'en vont sous les regards sympathiques des paysans, comme des gens dont la cause est gagnée. Madame Bascule sanglote sur son banc. Le juge de paix souriant.
Remettez-vous, chère dame. Voyons, voyons, remettez-vous.
Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de chercher un autre élève.
Madame Bascule, à travers ses larmes.
Je n'en trouverai pas.
Le juge.
Je regrette de ne pouvoir vous en indiquer un.
Elle jette un regard désespéré vers le Christ douloureux et tordu sur sa croix. Puis elle se lève et s'en va, à petits pas, avec des hoquets de chagrin, cachant sa figure dans son mouchoir. Le juge de paix se tourne vers son greffier et, d'une voix goguenarde, «
Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. »
Puis, d'une voix grave,
« Appelez les affaires suivantes. »
Le greffier bredouille.
« Célestin Polyte le cacheur. Prospère ma gloire, Dieu l'a fait. »
25 novembre 1884.